À vous écouter, on sent une certaine forme d'intranquillité. Faut-il donc être intranquille par rapport à tout ce qui se passe dans cette évolution incontestable sur laquelle je pense qu'il y a une distinction peut-être à effectuer entre ce qu'on appelle l'homme réparé et l'homme augmenté, mais la différence et la limite est en train de bouger. Parce que finalement, la durée de vie qui augmente, c'est aussi un homme augmenté. L'anesthésie péridurale qui est proposée, c'est aussi une suppression de la douleur. La rétine artificielle qui est en train d'être travaillée, c'est effectivement pour répondre à des situations de troubles majeurs de la vision, même des gens qui n'ont jamais eu de vision. Les prothèses, elles sont faites aussi bien pour l'esthétique comme les prothèses mammaires, mais aussi les prothèses pour marcher, effectivement, avec tout le développement de ce qu'on connaît. Est-ce que la prise de Viagra, c'est un homme augmenté ou c'est autre chose? Donc, je trouve que la limite, elle se pose, comme elle s'est posée d'ailleurs à chaque fois, qu'on a fait des, on va dire, des transgressions ou des changements par rapport à ce qui était connu. Dans l'histoire de la reproduction, par exemple, que je connais bien, c'est vrai qu'on part toujours de bons sentiments, c'est-à-dire du médical, et qu'à partir du médical, c'est-à-dire pour essayer de résoudre un problème particulier, ensuite il peut être utilisé différemment, c'est-à-dire on voit bien d'abord les traitements de la stérilité, puis ensuite simplement il n'y a plus de stérilité, mais il peut y avoir un désir d'enfant, comme ci, comme ça, sans qu'il y ait de problèmes strictement médicaux. Et on est un peu dans tout cela sur la même chose. C'est-à-dire, si on pouvait plus aisément, c'est-à-dire, parce qu'il y a un côté un peu... Il y a un côté un peu qui fait peur, quoi, je dirais, de toutes ces machines, même de ces mains comme cela, de cette intelligence artificielle qu'on connaît pas. Mais finalement, quand on se dope avant le bac avec tel ou tel... médication, on la fait couramment, et c'est pour être augmenté, préparé et mieux faire. Quand on utilise, je dirais, un certain nombre de choses, d'ores et déjà, c'est déjà intégré en nous, que l'on cherche en tous les cas à revenir à ce qui est courant, mais en même temps, il n'y a plus de courant. Au sens où, comme je le disais, si on vit aujourd'hui 80 ans, il y a un siècle, on vivait 40. Donc voilà, fallait-il aller à l'homme augmenté avec tous les problèmes que ça pose en augmentant l'âge? Alors dans le domaine de la reproduction, effectivement, il n'y a plus de limite à l'âge de la femme pour porter un enfant, même si c'est pas de ses propres ovocytes. Et on voit que on peut être vigilant, on peut s'inquiéter de ce qui pourrait être fait, comme on a dû s'inquiéter au moment de toutes les énergies, qu'elles soient la locomotive ou que ce soit l'énergie nucléaire. Et en même temps, ce serait trop simple de dire que on ferme le couvercle et puis on efface tout et puis on recommence, on n'en parle plus. C'est-à-dire que tout ce qui a été évoqué, effectivement, peut être pratiqué et sera sans doute pratiqué. Et on peut envisager, effectivement, dans une cinquantaine d'années, la création d'ovules artificiels, la création de spermatozoïdes artificiels, les greffes d'utérus seront largement pratiquées, voire peut-être même des utérus artificiels. Donc on est dans un monde où le risque, les deux risques que vous avez évoqués dans votre présentation, qui sont d'une part de la dictature dure, dictature molle, donc d'un pouvoir collectif qui est imposé à l'un ou à l'autre, enfin à chacun dans des individus, existe incontestablement. Ce qui est remarquable dans tous les romans que vous avez cités ou tous les films qui ont été faits sur la science-fiction de ce type, c'est qu'il y a toujours des rebelles. Vous n'avez pas parlé des rebelles. Alors vous allez parler des rebelles. Et donc il y a des rebelles au sens où S'il y a toujours quelqu'un qui est amoureux et qui s'échappe et qui va donc remonter la pente parce que le sentiment n'est pas clairement, facilement, en tous les cas aujourd'hui, organisable. Encore que, il y a un film, pour rester dans la problématique que vous avez évoquée et dans le lien un peu de Watson et d'autres robots qui existent. Moi, je trouve ce film, vous avez peut-être déjà parlé dans les fois précédentes, hein, ce film merveilleux de R, où justement on est dans la machine virtuelle, mais dans un lien affectif avec la machine virtuelle, bon, qui n'est pas éternelle lorsqu'on découvre le poteau rose. Mais il y a, par rapport à le sentiment, je dirais le sentiment, le vécu, reste quand même toujours quelque chose qui ne peut pas être reproduit ou matérialisé. Donc l'homme est un être sensible, il est un être rationnel, il est un être sensible, et je pense que ce soit l'amour, que ce soit le ressenti, hein, on va dire, je pense qu'il y a des éléments positifs sur lesquels il faut essayer de s'appuyer, non pas y croire sans réfléchir, mais sur lesquels il peut y avoir, donc, et ça sera peut-être la quatrième réunion que vous organisez sur les rebelles. En dehors de croire que effectivement que les sentiments vont interagir, finalement, vous soulevez à chaque fois la question de l'éthique. Hein. Vous avez parlé plusieurs fois de l'eugénisme, l'eugénisme dur ou l'eugénisme rampant, c'est-à-dire le vrai eugénisme, on va dire, celui qui est imposé à tout le monde et qui ne laisse pas de place à aucune liberté. Et puis l'eugénisme rampant qui impose quasiment de fait, mais qui quand même permet un espace de liberté. Alors le maintien de cet espace de liberté est très important. S'il se rétrécit, là il faut être extrêmement vigilant. Alors je vais donner un exemple pour parler concret. Il marche ce truc-là ? Ah, c'est pour enregistrer. Bon, parce que j'ai vraiment l'impression de parler dans le vide. Évidemment, il n'y a pas de micro. donc dans la médecine, en tous les cas la médecine anténatale, où on va faire des projections sur des prédictions avant même que l'enfant naisse, et voire même sur l'embryon faire des prédictions. D'abord, il y a des choses qui sont assez intéressantes, qui sont que la génétique n'est pas tout et que l'épigénétique prend de plus en plus de place dans la compréhension des mécanismes. Ça veut dire que l'expression d'un gène malade, certes, va s'exprimer, plus ou moins, mais il va s'exprimer. L'expression de plusieurs gènes déviants s'est soumise beaucoup plus à des phénomènes de l'environnement et de ce qui est autour, l'éducation, etc., par exemple. Donc, c'est pas aussi simple que de penser, et d'ailleurs, dans Gattaca, ce qui est effrayant, c'est effectivement... le côté de du marc de café, de dire, mais enfin finalement, de dire vous avez 70% de risque cardiaque, somme toute, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Hein. Parce que tout le monde a à peu près, à partir d'un certain âge en tous les cas, un risque qui augmente. Donc, il faut revenir un peu à qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces indications, et à mon avis, on ne peut pas en tirer énormément de choses. Même si ça fait, si on pense qu'on peut tirer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont erronées, par exemple la couleur des yeux et tout ça n'est pas d'une détermination génétique. On n'a pas la possibilité, on sait même pas comment apprécier le QI, là c'est tout le débat aujourd'hui. Et puis l'intelligence, c'est l'intelligence du footballeur ou du basketteur qui doit être parfaite, hein, pour le jeu, pour comprendre les passes, pour mettre... c'est une forme d'intelligence que pas tout le monde a et qui n'a rien à voir. Quand on dit « je voudrais que mon enfant soit intelligent », il faudrait qu'il soit intelligent, mais on ne sait pas pourquoi. Donc ça peut être une sensation, une connaissance de telle ou telle activité humaine, mais qui n'est pas comme ça, je dirais, aussi... Enfin, je veux dire que dans toutes ces préoccupations-là, j'ai effectivement une notion de vigilance, c'est-à-dire de nommer les choses, de nommer les risques, mais aussi de voir qu'il y a du contradictoire. Par exemple, le big data. Effectivement, le big data peut être interprété, et comme il peut être interprété d'une certaine façon pour les conduites, pour dicter des conduites et dicter des façons de faire, peut-on réagir en même temps qu'on en prend conscience pour que ça ne se passe pas comme ça, mais que le big data soit au contraire utilisé, comme certains le souhaitent très fortement, pour donner des informations qui peuvent être utiles à tout le monde. Je veux dire que si on veut la levée des données, par exemple, de l'organisme de la sécurité sociale sur toutes les données qu'elle a qui ne sont pas utilisées, on aurait peut-être mis en évidence, comme vous le savez, que le Mediator était utilisé à d'autres fins qu'il ne devait l'être et qu'il y avait un certain nombre de mortalités qui étaient supérieures à ce qu'on pouvait attendre. Donc, en un mot, à chaque fois, dans tout ce que fait l'être humain, il y a le côté inquiétant parce que nouveau, parce que nous amenons sur des terrains sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, mais qui sont tout à fait novateurs. Mais il y a aussi la possibilité de les utiliser. Alors pour les utiliser d'une autre façon, il faut se donner quand même des lignes de conduite. C'était un peu l'appel, Ima, de la fin de l'intervention, en disant quelle éthique finalement avoir devant ce genre de développement. Ce genre de développement qui va faire que, oui, si on a une main coupée et qu'on nous donne une main artificielle comme cela, on va être très heureux et on va la prendre. Si on a le cœur malade et qu'on nous offre un cœur artificiel qui fonctionne, et il fonctionnera un jour, pendant des années, bien sûr qu'on va le prendre. Encore une fois, la rétine artificielle là, qui est en plein bouleversement, ou le traitement de la DMLA, je veux dire, tout ça, on va prendre et on ne va pas le critiquer. Sauf si toutes ces progressions se faisaient au détriment d'autres. Donc ça, c'est une première règle, à mon avis, éthique, qui est pour moi inscrite dans le marbre. C'est-à-dire, est-ce que dans toutes ces nouveautés, ou peut-être ces propositions, il y a quelqu'un qui empathie. Quelqu'un qui empathie parce qu'il est soit utilisé, soit programmé dans une image qui ne lui laisse pas la liberté de faire autrement. Et c'est peut-être ce genre de situation, plus la situation, on va dire, collective que vous avez évoquée avec ce que pourrait entraîner le big data, hein, ce que je disais, le côté négatif du big data, que l'on peut sans doute limiter et contrôler. C'est vrai que Internet, c'est quand même ce qui permet un certain nombre de communications avec de très mauvaises pensées, par exemple djihadistes et des recruteurs qui se précipitent sur les personnes sensibles qui se confient et en font quelque chose de très négatif. Mais c'est vrai que c'est aussi l'Internet, c'est une source d'échange et de assez extraordinaire, quoi, et de connaissances. Donc dans ces avancées, où mettre les limites? La première, c'est de ne pas utiliser donc l'autre homme, l'autre humain plutôt qu'homme, qu'il soit enfant ou adulte, dans des fins qui ne visent qu'à répondre à un désir ou à un besoin, soi-disant un besoin, d'une personne, utiliser l'autre à son profit, en un mot. La deuxième ligne éthique, me semble, c'est tout ce qui commence, et c'était la première partie de Jean-Daniel, sur le corps, et donc tout ce qui aboutit à une commercialisation du corps, et donc à une accentuation de la différence et surtout de l'exploitation, puisqu'on revient à ces mots clés que sont l'exploitation psychique, corporelle ou différente de l'humain, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Donc c'est, je pense, cette vigilance qu'il faut en tous les cas développer, faire la part aussi dans tout ce qui se, dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui est gadget et sans intérêt, à part comme ça, c'est presque un jeu, savoir combien je fais de pas par jour. Bon, c'est rigolo de savoir qu'on a fait 10 000 pas, mais enfin, à part ça, ça mène pas très loin, et puis rapidement, on se lasse, hein. Franchement. Donc, il y a tout un tas d'applications et de renvois, de connexions qui vont finir d'elles-mêmes ou enfin, ne pas avoir un gros intérêt. Par contre, il peut y avoir des choses plus intéressantes en médecine, par exemple sur le suivi de certains traitements. Je pense à l'insuline, enfin, il y a tout un tas de connexions qui se font, qui peuvent être pris comme une aide. Donc à chaque fois, c'est un peu ce double mouvement qui, encore une fois, tout ce qui change mérite un œil neuf et mérite, je dirais, c'est de redéfinir ce qu'on ne veut, là où on ne veut pas aller. Et une fois que ça s'est défini, peut-être de laisser faire cette incroyable facilité actuelle de l'être humain à découvrir des mécanismes que l'on n'osait pas aborder. Enfin, je pense en particulier, c'est vrai que l'histoire du cerveau en particulier et du mécanisme de l'intelligence, est-ce que ça veut dire qu'on sera soumis à l'intelligence artificielle ou est-ce que ça veut dire simplement qu'on va mieux comprendre ce mécanisme, cette boîte obscure, quand même, de tous ces liens qui se font avec aussi toutes ces anomalies qui nous guettent, en particulier liées à l'âge. Donc 500 ans, là, je sais pas très bien, voilà, hein, je sais pas très bien dans quel état, quoi. Quoi, hein, 500 ans, les mêmes, mais vous voyez un peu le nombre de séminaires qu'on peut faire. Voilà, donc c'est quelques éléments de réflexion comme ça, un peu à chaud sur toujours cette vision utopique et non utopique, je dirais, des projets humains.